Juge, chapitre 3, et donc nous allons voir ce soir, eh bien, ce deuxième juge en Israël que l'Éternel a pourvu, a suscité pour le bénéfice de son peuple, comme on l'a déjà vu, hein, pendant cette période de 350 ans où Israël a eu ce cycle, hein, de descente spirituelle. On voit que, y a toujours ce même schéma qui revient, qui est prévisible. Et on voit que ici, dans ce passage de Juges chapitre 3, on va lire à partir du verset 12, et je sais qu'on finira pas tout ça ce soir, hein, mais on va déjà voir pas mal de choses qui vont nous donner un aperçu intéressant, et on va devoir aussi regarder à certaines questions importantes, hein, de ce qu'on voit dans ce passage, hein, qui peuvent choquer. Mais on va lire à partir du verset 12 et on commencera donc cette étude ce soir. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab, et Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint à lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit: Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: Silence! Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit: J'ai une parole de Dieu pour toi. Eglon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent: Sans doute, ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clef et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Et pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Saïra. On arrêtera là juste pour ce soir, parce que comme je l'ai dit, on n'aura pas tout le temps ce soir de voir les choses par rapport à ces versets. Mais encore une fois, on retrouve ce même schéma, hein, ce schéma où Dieu avait déjà suscité un libérateur, Dieu avait déjà accordé à Israël une période de paix, mais Israël s'était de nouveau fourvoyé dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, et Dieu va susciter déjà, eh bien, un ennemi à Israël pour que Israël puisse se ressaisir. Mais ça va prendre du temps, n'est-ce pas? On voit que Eglon donc envahit Israël avec l'aide des Ammonites, des Amalécites, et ensemble, ils vont opprimer le peuple d'Israël pendant 18 ans. Mais finalement, lorsque Israël se ressaisit et se repent de son péché, Dieu va alors susciter un homme nommé Éhud pour les libérer. Dans ce récit, on voit que Éhud va assassiner donc Eglon et va mener Israël un peu plus tard à la victoire et à la liberté. Mais ce récit historique a beaucoup à nous apprendre, même sur notre vie spirituelle. Et c'est ça que je veux aussi qu'on prenne aussi en considération quand on regarde à ces récits du livre des Juges, c'est de pouvoir en tirer les leçons pour nous aujourd'hui. Et il y en a. Parce que tout comme Israël, nombreux sont les chrétiens qui, malheureusement, suivent ce même schéma. Un schéma où tout va bien, Dieu a répondu à mes prières, et puis On fait un pas dans la désobéissance, et ce pas entraîne un autre pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'Éternel soit obligé d'intervenir, de châtier son peuple et l'amener à une situation où le peuple réalise son péché, son erreur, et revienne à l'Éternel, et Dieu les restaure avec l'aide d'un juge. Notre problème aujourd'hui, contrairement à Israël à cette époque-là, c'est que nous n'avons pas des ennemis physiques. Nous avons des ennemis spirituels, par contre. Nous n'avons pas à lutter comme Israël contre les Moabites, les Ammonites et les Amalécites. Non, nous, notre guerre, comme j'ai déjà souligné, c'est une guerre qui est spirituelle. Et notre ennemi le plus proche, c'est notre propre chair. Quand la Bible parle de la chair, le mot grec qu'elle emploie, c'est un terme qui désigne, oui, le corps physique, mais ça désigne le corps physique et tout ce qui a trait à la personne, en fait. C'est un terme qui, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, va s'étendre, eh bien, à l'être humain en entier, incorporant l'âme, l'esprit, et sous-entendre cette nature humaine pécheresse qui est liée à chacun d'entre nous. Et donc, quand la Bible parle, par exemple, que nous n'avons pas, que nous devons lutter contre notre chair, mettre à mort notre chair, le vieil homme, etc., c'est par rapport à cette nature pécheresse que nous avons. Et le dictionnaire biblique, justement, donne cette définition, que c'est la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu, qui est dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté, mais également le corps. Et donc, dans ce sens, le mot chair désigne l'être humain tout entier, ce moi qui est incapable de faire par lui-même le bien. Alors, ici, dans ce récit, et au fur et à mesure de notre lecture, il nous est difficile de ne pas voir que les ennemis d'Israël, en fait, ressemblent étonnamment à nos ennemis aujourd'hui. C'est-à-dire que les aspects que l'on voit, par exemple, avec ce roi Églon et les autres, sont des choses aussi que nous devons combattre dans notre propre vie. Si on regarde à Églon, Églon, serait vraiment cette image de cette chair, de quelqu'un d'incontrôlable. Je dis incontrôlable pourquoi? Parce qu'on nous dit que c'était quelqu'un qui était de très forte corpulence, donc qui mangeait sans restriction. C'est quelqu'un qui était égocentrique, paresseux, mauvais, plein d'orgueil. Et on va voir aussi que lorsque Aiglon va être tué par Ehud, on a cette image vraiment de ce que doit être notre combat spirituel. Chacun de nous, nous avons des problèmes avec notre chair, notre nature pécheresse. Parfois, on va gagner des batailles, parfois, on va en perdre. Parfois, on veut même pas être engagé dans cette lutte. On n'a pas la motivation de lutter contre les désirs de notre chair. Pourtant, chaque jour, c'est une bataille, c'est un combat dans lequel nous sommes impliqués. Qu'on le veuille ou non, nous sommes impliqués dans ce combat. Et c'est un combat qu'il nous faut gagner, c'est un combat que nous devons à tout prix chercher à gagner dans notre vie. Et ce passage nous donne justement des éléments pour nous aider à mener, à remporter cette bataille spirituelle contre notre chair. Donc Ehud, oui, il a vaincu les oppresseurs d'Israël. Et ça nous montre aussi que, voilà, avec l'aide du Seigneur, nous aussi, nous pouvons être vainqueurs de nos ennemis comme notre chair, contre nos passions charnelles. Mais voilà, dans les versets 12 à 14, il y a une situation, il y a un dilemme pour Israël. Ces versets décrivent cette terrible oppression qui est subie par Israël à cause de sa rébellion contre le Seigneur et leurs épreuves. Servent d'avertissement pour tous ceux qui s'éloignent de Dieu. Et dans le livre des Juges, c'est vraiment ça qu'il nous faut voir. C'est ces avertissements pour nous de veiller à suivre l'Éternel. Donc ils ont fait, encore une fois, ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel fortifie Églon, roi de Moab. Il s'empare de ce territoire. Et ici, il est question dans le verset 13 de cette ville des palmiers, qui est la ville de Jéricho. Et les enfants d'Israël donc sont asservis pendant 18 ans à Eglon, roi de Moab. Mais là, Israël a dû faire face en fait à plusieurs nations, n'est-ce pas? Nous avons les Moabites, les Ammonites, les Amalécites. Et ces trois nations furent une source constante de problèmes pour Israël. Toutes les trois, chose intéressante, étaient aussi liées par le sang à Israël. Les Amalécites descendaient d'Ésaü, hein, le frère jumeau de Jacob. Les Moabites, les Ammonites descendaient de Lot, le neveu d'Abraham. Donc il y a un certain lien de parenté entre ces peuples. On sait que chacun de ces peuples, malheureusement, a montré hein, ce que c'est que de vivre selon la chair. Lorsque Lot et ses filles hein, avaient été délivrés de Sodome et de Gomorre, on sait hein, que la fille de Lot enivra son père, a eu des relations sexuelles avec lui et a conçu Moab et Ammon. Et tous deux, donc, ce sont les ancêtres hein, de ces peuples que nous voyons ici combattre contre Israël. Ces nations, on le sait, vénéraient de faux dieux. Ils étaient dans l'idolâtrie. Les Moabites adoraient Kemosh, tandis que les Ammonites vénéraient Moloch. Et dans ces pratiques païennes, hein, comme on avait déjà eu l'occasion de le voir, beaucoup de pratiques sexuelles abominables, des sacrifices d'enfants, etc. Ces trois nations, donc, ont été une constante menace pour Israël. Elles attaquaient, elles entravaient, elles cherchaient sans cesse à réduire le peuple d'Israël en esclavage. Et comme je disais, donc, ces trois nations reflètent un aspect, une image de cette nature charnelle. Moab, par exemple, représente le pouvoir de la chair. Ammon représente la passion de la chair. Amalek représente la persistance de la chair. Et tout comme Israël a été attaqué à plusieurs reprises par ces nations, eh bien nous aujourd'hui, nous sommes sans cesse attaqués hein, de divers côtés par notre chair. Notre chair, elle a ses propres désirs. Elle n'aime pas la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Elle n'aime pas la justice. La chair que nous portons en nous hein, fera tout son possible pour nous asservir, pour nous rendre esclaves hein, des passions charnelles, nous empêcher d'atteindre même notre plein potentiel en Jésus-Christ. Faut pas se leurrer sur cette question-là. Parce que souvent, c'est facile de flirter avec la chair, de dire « Oh, c'est pas si grave si je fais un peu de ceci ou un peu de cela. » Mais notre chair voue une haine contre Dieu et tout ce qu'il représente. Elle va pas se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que notre lutte contre la chair doit nous amener, eh bien, un combat intense, un combat féroce, et un combat qui doit nous amener à mettre à mort cette influence de la chair dans notre vie. On a déjà mentionné ici hein, les passages comme dans Romains 7, où on voit même l'apôtre Paul hein, parler de son combat spirituel hein, contre la chair. Mais voilà, le combat ici contre ces nations va amener donc Israël à être sous l'esclavage de ce roi Aiglon et va devoir, comme tout pays qui est vaincu, apporter un tribut, apporter des présents à celui qui règne sur eux. Si effectivement nous regardons à l'exemple ici d'Israël, eh bien, à cause de leur péché, il y a des conséquences, il y a un échec. Et je trouve intéressant de souligner le fait que quand Aiglon va attaquer, il va attaquer à une image importante. Tout comme notre chair, quand elle va nous attaquer, elle va chercher à détruire quelque chose qui est très significatif dans notre vie pour nous amener à être au plus bas spirituellement. C'est pas pour rien, je pense que ici, Aiglon hein, et ses acolytes ont fait la prise de Jéricho. Hein, Jéricho fut la première ville conquise par Israël lors de son entrée dans la terre promise, hein, dans Josué chapitre 6. Elle symbolisait toutes les victoires que Dieu allait accorder à Israël par la suite. Et donc pour Israël, de voir leurs oppresseurs s'installer dans cette ville de Jéricho, s'installer dans cet endroit, parce que la ville, il restait plus grand-chose. Mais voilà, c'était quelque chose de percutant pour eux. Mais voilà, la chair va agir de la même manière. Juste au moment où on pense avoir remporté une grande victoire spirituelle dans notre vie, c'est là où il faut pour nous être le plus vigilant. C'est là où la chair va vouloir attaquer de nouveau. Et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour justement nous saper les victoires que nous avons eues. Il n'y a rien de pire que ce sentiment que quand on a gagné une bonne victoire spirituelle et de tomber dans le péché par la suite et de se sentir, mais alors, mais vraiment minable de chez minable, de chez minable. Ça, c'est ce que la chair veut faire. Et ça, c'est ce que Aiglon a fait ici avec le peuple d'Israël. La chair, elle est implacable. Et malheureusement, ce désir spirituel en nous de vouloir faire ce qui est bien, eh bien, doit lutter contre cette chair qui nous pousse à faire ce qui est mal. Et lorsque l'on baisse notre garde, ben on finit par écouter la chair. Nous perdons la bataille. On oublie de prier, on néglige de lire la parole de Dieu, de la méditer. On finit par négliger, hein, notre relation avec le Seigneur, et on finit par s'éloigner du Seigneur et de tout ce qu'il représente. C'est un combat qui est intense et qui demande de la rigueur. On se rappelle, hein, de ce passage de 1 Corinthiens 9, 27 avec Paul qui nous dit, hein, je traite durement mon corps, hein, je le tiens assujetti, hein, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que Paul comprenait le danger que représentait sa chair par rapport à la grandeur de l'appel que Christ avait placé dans sa vie de prêcher l'évangile, et il faisait tout. Hein, d'ailleurs, ici, l'expression verbale qui est employée dans le grec signifie vraiment de battre, hein, de causer des bleus. Hein, il y a cette notion de couleur, de noir et de bleu, et c'est vraiment de frapper pour causer des meurtrissures, hein, des marques. C'est vraiment l'idée d'un combat physique intense. C'est ce que Paul veut que nous fassions. Lorsque la chair, hein, fait surface, nous devons la remettre à sa place, la battre, la frapper, l'assaillir, hein, et la faire plier. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais si on ne s'engage pas dans ce combat, bah, la défaite, elle est beaucoup plus rapide et elle va être beaucoup plus évidente dans notre vie. Mais parce qu'Israël n'avait pas honoré donc la volonté de Dieu dans ce que Dieu leur avait demandé d'être en tant que nation mise à part pour servir l'Éternel, Israël a été asservi à Eglon. Si on laisse la chair donc prendre le dessus sur notre vie, on finit par en être esclave. Et donc les versets 15 à 26, on voit donc la réponse favorable de Dieu, hein, d'envoyer quelqu'un pour libérer le peuple. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel donc leur suscita un libérateur, Éhud. Et alors il y a pas mal de choses à dire sur ce Éhud. Vous aurez remarqué aussi que, bon, par rapport à Othniel, on a beaucoup plus de lectures à faire sur Éhud, n'est-ce pas? Mais voilà, Éhud nous est présenté comme quelqu'un ayant un certain désavantage. Bon, Othniel venait d'une famille avec une certaine renommée, avait déjà fait ses preuves, hein, dans les combats, etc. Et voilà, arrive donc ce Éhud, un Benjamite, quelqu'un qui, donc, dont la tribu, hein, normalement, avait reçu la région de Jéricho en partage. Donc, Éhud vient de ce peuple qui a été attaqué par Aiglon. Et il nous est dit que il ne pouvait pas se servir de sa main droite. Alors certains vont dire, bah, il était gaucher. D'accord? Mais le mot qui est employé ici dans l'hébreu nous donne vraiment la notion qu'il était vraiment incapable d'utiliser sa main droite, dans le sens où vraisemblablement, il avait un handicap. Il n'avait pas la capacité, hein, physique d'utiliser vraiment, hein, sa main, il était paralysé de la main droite, il était infirme. Et donc, ce qui aurait pu sembler comme un handicap pour quelqu'un qui est censé être le libérateur du peuple, Mais on va voir que finalement, ça aura été aussi à son avantage. Si le peuple avait eu la responsabilité de désigner quelqu'un pour le libérer, il n'aurait pas choisi quelqu'un comme Ehud. Comme nous le verrons, Ehud est bien employé, hein, ce que beaucoup auraient considéré comme un handicap, en un atout. Alors il y a déjà pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, le fait que chacun d'entre nous, nous avons nos problèmes, nous avons nos échecs et nous avons nos handicaps spirituels. On voit dans les Écritures de nombreuses personnes comme ça qui avaient un désavantage. Ils n'auraient pas forcément été celui que le peuple aurait choisi. Bon, Moïse se présentait comme quelqu'un qui avait un problème d'élocution. David était un jeune berger. Hein, face à ce grand Saül, c'était un minus. Paul, c'était quelqu'un qui était détesté par les chrétiens parce qu'il était persécuteur d'église. Et par la suite, quand il s'est converti, beaucoup avaient des doutes par rapport à lui, des craintes. Et voilà, nous avons un Dieu qui ne regarde pas à ces choses-là. Et nous ne devrions pas non plus. Et nous ne devrions pas non plus regarder à ce que nous nous considérons comme un problème, un handicap dans notre vie pour dire que je ne peux pas servir le Seigneur. Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Nous avons tous, donc, d'une manière ou d'une autre, un problème, un handicap qui, selon nous, nous empêche d'être tout ce que le Seigneur voudrait que nous soyons. Et là, il faut se poser une question. Est-ce que l'on pense que Dieu, il ignorait nos problèmes avant de nous avoir sauvés? Avant de nous avoir accordé sa grâce? Avant de nous appeler à son service? Non. Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés malgré tout. Il nous a pas sauvés parce que on se lamentait sur ce que nous ne pouvons pas faire. Non, il nous a sauvés parce qu'il nous aime et il nous a sauvés parce que lui, il est capable d'employer les choses folles du monde pour déstabiliser les sages. Et donc, on doit cesser de trouver des excuses pour justifier notre incapacité à servir le Seigneur. Et donc là, on voit un plan se mettre en place dans les versets 15 et suivants. On sait qu'Israël devait régulièrement donc payer un tribut à Églon, et donc ils envoient Ehud vers Églon pour apporter un présent, un cadeau, avec une délégation. Et donc Ehud va saisir cette occasion, il va se fabriquer un poignard à double tranchant, hein, d'une petite dague, hein, de 40 cm environ. Il va l'attacher à sa cuisse droite, logique, il est gaucher. Il va apporter l'argent du tribut au roi. Et son plan, donc, c'était de s'entretenir seul avec Aiglon dans le but de l'assassiner. C'était un plan audacieux. C'est un plan audacieux parce que si Ehud avait été surpris avec ce poignard, il aurait été exécuté sur le champ. Les gardes, peut-être, s'attendaient à voir une épée attachée à son flanc gauche, parce que la plupart des gens sont droitiers, tiennent l'épée de côté gauche. Ils n'ont peut-être pas cherché à vérifier en se disant, bon, c'est une personne handicapée, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais voilà, la situation va permettre à Ehud de terrasser ce roi Églon. Il y a aussi une bonne illustration à faire par rapport à cela et par rapport à notre vie spirituelle. Notre chair, elle sait lorsqu'elle nous voit, penser que notre handicap nous empêche de pouvoir servir le Seigneur. La chair, elle sait qu'on se paralyse nous-mêmes souvent et que de nous-mêmes, on n'aura pas la force, hein, de surmonter ces attaques. Mais voilà, la chair, elle nous croit faible. Et oui, nous sommes faibles. La chair pense pouvoir nous contrôler et diriger notre vie. Et si on la laisse, oui, elle le fera. Mais la chair, elle oublie aussi une vérité importante. Et souvent, nous, nous l'oublions également. C'est que l'Esprit de Dieu habite avec le croyant, dans le croyant. La chair, elle oublie aussi cette promesse du Seigneur, que sa grâce nous suffit, que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. La chair, et puis nous trop souvent, on oublie aussi que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. La chair, elle veut nous faire oublier aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si on écoute la chair, Oui, on verra notre impuissance, on verra nos incapacités, on verra ce que nous considérons comme des obstacles ou des handicaps pour servir le Seigneur, et la chair aura le dessus sur nous. Mais voilà, oui, Dieu a choisi les choses folles pour confondre les fortes. Et donc après avoir remis hein, ce présent à Aiglon, on voit la délégation qui s'en va. Et après avoir parcouru une courte distance, Ehud va revenir et annoncer à Aiglon, j'ai un message secret pour toi. Alors peut-être que, voilà, le roi, il se dit, ah, c'est un message secret, il y a peut-être une embrouille quelque part. Il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage qui veut me faire du tort. Et donc le roi, il va accéder à la demande d'Ehud, il va parler avec lui en secret, seul, et Aiglon donc congédie tous ses serviteurs. Et là, on a cette grande question par rapport à son action. Parce que Ehud va en profiter donc pour assassiner Aiglon, et il a employé le mensonge, il a employé la duperie pour parvenir à ses fins. Alors, il y a des détails ici qui sont assez, je sais pas comment dire le mot, quel mot employer, parce que selon la traduction, hein, le sens des mots qui sont employés, c'est que voilà, là où se trouvait le roi Aiglon, c'était l'endroit où on va aux toilettes. Donc, on a cette expression, par exemple, qui se couvrit les pieds, ça, c'est signifier qu'une personne était en train de faire ses besoins. Et donc, on a vraiment une image sordide hein, de la situation lorsque, au verset 22, hein, on voit que lorsque Ehud enfonce donc le poignard dans le ventre d'Aiglon, elle va s'enfoncer dans la chair, dans la graisse du ventre. Et la poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Alors selon les traductions, il y a deux traductions possibles. C'est soit bon, l'épée a traversé, soit ici c'est Ehud qui va sortir par derrière pour s'échapper, soit par rapport à la situation où les autres pensaient que le maître il était en train de faire ses besoins, que le choc a été tellement violent que Aiglon hein, se soit souillé aussi dans le même dans la même situation hein, par rapport à cela. Donc c'est assez sordide comme histoire. C'est assez glauque, c'est très sombre la manière dont Ehud hein, a profité de la situation pour assassiner Aiglon. Et donc, on a deux questions qu'il va falloir répondre, et Dieu voulant, on fera ça la prochaine fois. C'est cette question morale par rapport à l'assassinat et par rapport au mensonge. Mais il y a une chose qui est importante à souligner d'ores et déjà, c'est que lorsque l'on va devoir combattre la chair, ça va pas être une tâche amusante. Parfois, ça doit nous amener à prendre des décisions qui vont être douloureuses pour nous, parfois douloureuses aussi pour notre entourage. Hein, le Seigneur, il avait clairement parlé du fait que si on voulait le suivre, il fallait le suivre jusqu'au bout, être prêt à tout abandonner. Et lorsqu'on fait face au péché, le Seigneur avait même dit, hein, si ton œil est une occasion de chute pour toi, si ta main est une occasion de chute pour toi, c'est partant. Pour montrer, indiquer non pas une coupure physique, mais indiquer qu'il faut des mesures radicales pour se séparer des effets de la chair. Et ici, l'image que Ehud nous donne, c'est que souvent le combat spirituel qu'on va devoir mener, ça va être assez dur. Ça va être assez dur. Mais donc, on tentera hein, mardi prochain de répondre à ces deux questions par rapport à la stratégie qu'Ehud employa, par rapport à est-ce que c'est bien d'assassiner? Est-ce que c'est bien de mentir? Je crois qu'on a déjà la réponse. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que Dieu aurait demandé d'agir ainsi? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir?